Le journal Margot Delpierre, bonjour.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les eurodéputés se prononcent aujourd'hui sur une vaste réforme de la politique migratoire. Elle vise notamment à durcir le contrôle des arrivées de migrants dans l'Union européenne. Que contient le texte? Comment s'en empare la majorité présidentielle en France? Nous ferons le point.
Reportage à suivre de notre correspondant en Russie. Dans une zone touchée par les inondations, les autorités s'attendent à un nouveau pic aujourd'hui.
Élections législatives en Corée du Sud, les électeurs pourraient en profiter pour montrer leur mécontentement à l'égard du président, critiqué pour ses dérives autoritaires.
Et dans un quart d'heure, le billet politique de Jean Lemarié qui s'intéresse aujourd'hui aux finances publiques. Le gouvernement va revoir ses prévisions de déficit pour l'année en cours.
8 ans de tension, de division entre les 27, mais ça y est, à 2 mois des élections européennes, les eurodéputés votent cet après-midi sur la réforme de la politique migratoire. Que va changer dans l'UE cet ensemble de lois baptisé Pacte pour l'asile et la migration? Le point avec notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bouin.
Premier point, le pacte oblige les pays de première entrée, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, à traiter toutes les demandes d'asile. Ils ne pourront plus laisser passer de candidats à l'exil sans les enregistrer. Identité, photo, prise d'empreinte, tout sera consigné dans une base de données. Deuxième élément, les migrants seront triés. Ceux dont on considère qu'ils ont moins de 20% de chances de répondre aux critères pour obtenir l'asile ne pourront plus s'éparpiller en Europe pendant l'instruction de leur dossier. Ils seront retenus dans des centres près des frontières et leur demande sera traitée en accéléré, moins de 3 mois. Les familles avec enfants sont concernées, mais pas les mineurs isolés. Les autres, les Syriens par exemple, éligibles à l'asile car issus d'un pays en guerre, suivront la procédure habituelle. Plus de contraintes donc pour les pays de premier accueil, déjà débordés. En échange d'un meilleur partage du fardeau, la réforme prévoit en effet un mécanisme obligatoire de solidarité. En cas de pression migratoire, tout le monde sera mis à contribution. Aujourd'hui, sur 27 États, 5 sont en première ligne. Une poignée d'autres, dont l'Allemagne, l'Autriche, la France, accueillent des flux secondaires. Le pacte prévoit une répartition plus équitable entre les 27 du poids migratoire. Au moins 30 000 demandeurs d'asile devront être accueillis, relocalisés chaque année au prorata du PIB et de la population de chacun. Et si certains refusent, la Hongrie a dit niette, ils devront participer financièrement à l'accueil en versant, c'est l'une des options, 20 000 euros par an pour chaque demandeur d'asile refusé.
Et si le texte est adopté par le Parlement, il doit encore faire l'objet d'une validation formelle par les États. Ensuite, les pays ont 2 ans pour s'organiser pour une entrée en vigueur courant 2026. Les 3 principales familles politiques européennes, à savoir le PPE, les socialistes et démocrates et les centristes de Renew Europe y sont favorables. Et du côté de la majorité présidentielle, on a bien l'intention d'en faire un important argument de campagne, Rosalie Lafarge.
Prudente mais confiante, les troupes du président. Si tout se passe comme prévu, ce pacte asile et migration débouchera pour nous sur une victoire politique, veut-on déjà croire autour de la tête de liste. Pour une raison simple, parmi les principaux candidats français au scrutin du 9 juin, Valérie Ayé sera la seule à voter pour. Idéal pour attaquer tout le monde. Le RN d'abord, qui serait alors mis en échec. Lui qui s'oppose depuis le début à cet ensemble de textes travaillés depuis plusieurs années. Marine Le Pen et Jordan Bardella ne valent pas mieux que les passeurs, tranche la direction de campagne macroniste. Mais encore plus que son rival, ce sont ses concurrents que cela permet de cibler pour Valérie Ayé. Si Raphaël Glucksmann vote contre, c'est une escroquerie inqualifiable, tacle un pilier de Renaissance qui n'y voit là, pour la tête de liste PS Place Publique, que la traduction d'une course aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Même chose pour François-Xavier Bellamy et les LR qui ne voudraient pas voir fuir les leurs vers le RN. Et les macronistes insistent, au niveau européen, LR et le PS sont minoritaires au sein de leur propre famille politique qui, elle, devrait massivement voter pour. Définitivement, pour l'entourage de la candidate Ayé, les anti-pactes asile et migration sont des irresponsables qui affaiblissent l'Europe. Si la majorité ne trouve pas le paquet parfait, elle sait aussi qu'un éventuel nouvel échec de cet ensemble de textes serait pour elle un coup dur. On ne peut pas, à 2 mois des élections, glisse un membre du bureau exécutif du parti présidentiel, faire la démonstration de l'incapacité européenne et donc la nôtre d'avancer sur ce sujet à déflagration qu'est l'immigration.
Rosalie Lafarge. Le projet de loi sur la fin de vie sera présenté ce matin en Conseil des ministres. Coup d'envoi de la procédure législative qui doit conduire à la légalisation en France et sous certaines strictes conditions du suicide assisté. On en connaît les grandes lignes depuis le mois dernier. Les sénateurs de la commission d'enquête sur le narcotrafic en France ont entendu hier Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice a pu faire le bilan de son action dans ce domaine, notamment des opérations PlaceNet XXL lancé depuis 3 semaines contre le trafic de drogue dans plusieurs régions, Anne Fauquemberg.
365 personnes ont été déférées devant la justice, dont plus de la moitié en comparution immédiate, explique Éric Dupond-Moretti.
Cette voie de poursuite présente l'avantage d'une réponse pénale rapide, permettant de limiter le recrutement des guetteurs, des vendeurs du jour, à travers notamment des interdictions de paraître ou de séjour sur les lieux du trafic.
100 mandats de dépôt ont par ailleurs été prononcés. Des opérations Place Nette, il y en a eu aussi en prison, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles ont permis de saisir 60 téléphones portables, 18 clés USB et 13 cartes SIM. Puis, le garde des Sceaux défend un circuit long d'investigation qui repose sur une approche patrimoniale et les relations internationales. Il ira installer prochainement à Dubaï un magistrat de liaison pour faciliter les interpellations de têtes de réseau. Mais les sénateurs restent perplexes, comme le président de la commission, Jérôme Durin.
On estime que, et sans déflorer le contenu du rapport que nous produirons très vite, que sur le haut du spectre, on est encore trop faible et que pour un Félix Bingui interpellé bientôt sur le sol français, le chat, trop de chefs de clans sont encore épargnés ou on n'a pas les moyens d'aller les chercher.
Félix Bingui est le chef présumé du clan Yoda, rival de la DZ Mafia à Marseille. Conclusion du garde des Sceaux à l'issue de son audition, je n'ai aucun problème à m'inspirer de ce qui sera écrit dans votre rapport.
Sécurité renforcée à Paris après des menaces d'attentats formulées par le groupe État islamique contre la Ligue des Champions. Plusieurs pays sont donc menacés. Tous ont augmenté leur vigilance dans les stades, mais aucun n'a demandé le report des rencontres visées. Ce soir est prévu le quart de finale aller PSG-Barcelone.
8h06, suite du journal Margot Delpierre. L'eau est encore montée hier en Russie et au Kazakhstan.
Oui, des inondations majeures, notamment le long du fleuve Oural, qui mettent en danger des localités. Les autorités s'attendent à un nouveau pic aujourd'hui. D'après le gouvernement russe, plus de 10 000 maisons ont pris l'eau. Plus de 6 500 personnes ont été évacuées de certaines régions. À Orenbourg, sur l'Oural, ville de 500 000 habitants, le maire appelle les résidents de plusieurs quartiers à partir. Reportage dans cette zone inondée de Sylvain Tronchet.
Pour rejoindre les quartiers inondés d'Orenbourg, il n'y a plus que deux énormes camions capables de rouler dans presque 2 mètres d'eau et de traverser les zones plus sèches pour arriver jusqu'à la maison qu'Elena et son mari ont abandonnée il y a 3 jours.
Combien de temps sommes-nous restés ? 1 heure et demie ? C'est monté de 10 cm de la hauteur d'une marche de l'escalier. L'eau monte vite, vite.
Ils récupèrent quelques affaires. Leur voisin Igor constate les dégâts sur sa maison.
Quand on l'a acheté, on pouvait voir sur les briques jusqu'où l'eau était montée lors de la dernière crue. Nous avons surélevé les fondations de 25 cm. Je pensais que c'était la hauteur critique. Je le pensais, mais non.
La crue de l'Oural est historique en raison d'une arrivée extrêmement rapide du printemps, explique Anton.
Il y a quelques jours, je portais un manteau d'hiver et maintenant, on peut se promener dans la rue en t-shirt. Avec ce changement brutal de température, la neige a fondu très vite et l'eau a commencé à monter dans les réservoirs où se trouve Orenbourg.
Certains habitants ont exprimé leur colère devant la lenteur de la réaction des autorités, ce qui leur a valu cette réponse du ministre des Situations d'Urgence.
L'évacuation a été annoncée il y a une semaine. Les gens n'ont rien fait. Ils ont cru qu'il s'agissait d'une blague. Ce n'est pas une blague.
Quant à Vladimir Poutine, il ne se rendra pas sur place, mais il se tient informé sur le Kremlin.
Benjamin Netanyahou fait une erreur à Gaza, dit Joe Biden. C'est l'une des plus fortes critiques émises par le président des États-Unis à l'égard du premier ministre israélien. Joe Biden se dit en désaccord avec son approche. La Maison-Blanche trouve par ailleurs les déclarations du Hamas palestinien sur une proposition de trêve associée à une libération des otages à Gaza pas très encourageante. La guerre dure depuis 6 mois. De son côté, Benjamin Netanyahou l'assure, une offensive sur Rafah près de la frontière égyptienne où sont concentrés quasiment 1,5 million de Palestiniens, essentiellement des réfugiés, aura bien lieu. La date est même arrêtée, affirme-t-il. Mais vu la réalité du terrain, Éric Biégala, ce ne sera pas avant plusieurs semaines au moins.
Avec le repli de la 98e division de Khan Younes, annoncée dimanche et qui est déjà en bonne partie réalisée, autour de 10 000 hommes sont en train de quitter Gaza avec leurs blindés lourds, l'armée israélienne ne dispose plus des moyens humains et matériels nécessaires pour lancer une attaque au sol sur la zone fortement urbanisée et très densément peuplée de Rafah. Les forces armées devraient laisser sur le terrain quelques éléments de leur 162e division, notamment la brigade Nahal, quelques 5-6 000 hommes, qui prendront position autour de ce que l'on appelle le couloir Netzarim, un axe nouvellement construit qui coupe la bande de Gaza en deux, d'est en ouest, la partageant entre Gazaville au nord, le centre de l'enclave Khan Younes et Rafah au sud. La brigade Nahal, c'est à peine 15% du volume de forces engagées au plus fort des combats. Cela ne veut pas dire que les tirs sur le sud de l'enclave et notamment sur Rafah vont cesser, mais il s'agira de tirs plus ciblés, opérés par l'aviation et visant en priorité les cadres du Hamas ou du djihad islamique s'ils sont repérés. À moins, bien sûr, d'un cessez-le-feu. Ce repli des forces israéliennes devrait également permettre un retour chez eux des Gazaouis déplacés à Rafah ou leur transfert vers des camps de déplacés qui restent à construire le long de la côte. Et c'est d'ailleurs une condition sine qua non d'un possible futur assaut sur Rafah que la population de l'agglomération en ait été évacuée. La radio de l'armée israélienne pronostiquait lundi une pause de 6 semaines pour ce faire.
Éric Biegala. Les Sud-Coréens votent ce mardi pour élire, votent aujourd'hui pour élire leurs députés. Et le scrutin prend des allures de référendum sur le sort du président du pays, Yoon Suk-yeol. En cas de défaite de son parti, il pourrait être le premier chef d'État à traverser tout un mandat sans disposer de majorité à l'Assemblée. Parmi les critiques à son encontre, ses dérives autoritaires. D'après une étude suédoise de l'Institut Vedem, la Corée du Sud est en état de régression démocratique. Une coalition d'artistes, de journalistes et d'opposants s'est même formée pour dénoncer la censure exercée par le gouvernement. Nicolas Roca est allé à leur rencontre.
Perquisition chez les journalistes, menace directe envers la presse par un conseiller, lutte douteuse contre les fausses informations. Depuis 2 ans, le chef de l'État entretient des relations houleuses avec les médias. Yoon Chang-yoon, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de presse.
Il utilise les institutions publiques pour discipliner toute expression, un tant soit peu critique ou dérangeante pour le pouvoir, et cela paralyse les médias dans leur ensemble. Il a eu recours à toutes les méthodes possibles, notamment grâce à la pression des commissions chargées des médias, ou encore le pouvoir des procureurs, avec des enquêtes et des perquisitions.
Une pression qui risque, selon lui, de s'accentuer en cas de victoire du parti présidentiel aux législatives.
Je pense qu'ils vont prendre des mesures pour faire reculer la démocratie coréenne en créant des lois qui attaquent la liberté d'expression. Je sais que nous ne pouvons pas intervenir directement dans les élections, mais s'ils deviennent le parti majoritaire, la situation sera désastreuse pour la démocratie coréenne et la liberté de la presse.
Chung Yung-hee est la directrice de l'association Post Liste Noire, une référence aux artistes censurés sous la dictature ou par les précédents gouvernements conservateurs. Elle estime que l'actuel président s'inscrit clairement dans cet héritage.
Dès le début du gouvernement Yoon, si vous exposiez une caricature du président ou une œuvre critique, votre performance était annulée. Et puis des sujets comme la tragédie du Sewol, la tragédie d'Itaewon ou encore la question du travail des handicapés, des personnes LGBT sont bien plus sensibles et compliqués à mettre en avant.
Autant de dérives qui pourraient être sanctionnées ce mercredi dans les urnes.
Le ramadan se termine aujourd'hui avec la célébration de l'Aïd el-Fitr, ce qui provoque en Italie une controverse assez inhabituelle dans le pays où la laïcité se vit avec beaucoup moins de polémiques qu'en France. Un établissement près de Milan qui accueille 1300 élèves de la maternelle au collège, dont 40% de musulmans, restera fermé aujourd'hui. Le ministre de l'Instruction a tenté d'empêcher cette fermeture sans y parvenir. À Rome, Bruno Duvic.
Pioltello, dans la banlieue de Milan. 40 000 habitants, 80 nationalités. C'est au nom du bon sens que le directeur de cette école ferme aujourd'hui. Les élèves musulmans sont de toute façon absents le jour de la fin du ramadan. Question de bon rapport entre communautés aussi. Pour la maire de la ville, de centre-gauche, elle est sur la raille.
Pardon pour le jeu de mots, notre cas fera école. Nous avons simplement voulu regarder la réalité en face. Pour nous, vivre ensemble est une chose absolument normale.
En Italie, les établissements ont une marge de manœuvre pour adapter le calendrier scolaire au contexte local, mais une partie de la droite radicale y a vu une atteinte à l'identité italienne ou un symbole négatif. Le ministre de l'Instruction du gouvernement Meloni prend acte à regret de la fermeture.
Je ne crois pas qu'on garantisse l'inclusion en fermant les écoles, mais en parlant des problèmes, du dialogue entre religions. C'est mieux de parler que de fermer les écoles.
Le président de la République est intervenu pour soutenir le directeur, ce qui a apaisé les choses. Le ministre tente maintenant de porter le débat sur la proportion d'élèves étrangers dans les classes qu'il veut limiter.
Peter Higgs est mort lundi à 94 ans. Le physicien britannique avait obtenu le prix Nobel en 2013 pour ses travaux sur le boson de Higgs, une particule élémentaire considérée comme la clé de voûte de la structure fondamentale de la matière. Le temps aujourd'hui en France sera plutôt ensoleillé sur une grande partie du pays. Quelques nuages en Bretagne et en Normandie. 12 degrés cet après-midi à Cherbourg, jusqu'à 14 à Lille et Strasbourg. 16 attendus à Paris et Bordeaux. 18 degrés à Montpellier.